Oeil. À la une, cette disparition de maître François Quinquis, les hommages se multiplient. On fera le point aussi sur plusieurs affaires avec la procureure de la République. Et puis, on parlera de ce projet, la médiathèque va déménager dans l'ancien hôpital du Vaillamy. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Maître François Quinquis est décédé hier et les hommages se multiplient.
Oui, il avait 71 ans, l'avocat le plus célèbre de Polynésie souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Il laisse derrière lui son épouse et ses fils Bran et Robin Quinquis. Installé en Polynésie depuis le milieu des années 80, il avait d'abord été l'avocat du territoire, puis était rapidement devenu celui de Gaston Flosse. Il l'a accompagné jusqu'au bout dans de nombreuses affaires politico-judiciaires et souvent avec succès, en soulevant notamment des vices de procédure ou en posant des questions prioritaires de constitutionnalité. Il avait d'ailleurs raconté tout ça dans un livre paru cette année, Gaston Flosse, chronique d'un destin hors du commun. Et au tribunal, on lui rend hommage aussi. On écoute la procureure Solène Bellaouar qui en parle.
Oui, mais j'ai appris avec une grande tristesse le décès de cet avocat dont je n'ignore pas qu'il est une figure du barreau de Papeete. Dans ce type de situation, et s'agissant d'un avocat, c'est évidemment toute une profession qui est en deuil, la profession des avocats, mais tout le monde judiciaire. Donc évidemment, je suis attristée par cette disparition.
Et justement, dans le monde judiciaire, maître Marie Eftimi Spitz, qui a travaillé pendant de longues années avec lui, lui rend aussi hommage, on l'écoute.
Je crois que le barreau perd énormément, pour ne pas dire tout, parce que François Quinquis, c'était, je pense, l'unique avocat qui réunit toutes les qualités qu'on doit avoir vis-à-vis des clients, vis-à-vis des magistrats, vis-à-vis des confrères. Il savait tout faire et surtout, il n'a jamais abandonné un seul client, il a toujours été proche d'eux. Il a toujours su conduire sa barque là où il voulait la mener. Il savait ce qu'était le droit. C'était un génie. C'était quelqu'un qui savait aussi nous entourer de sa bienveillance, qui a été un excellent bâtonnier, qui a toujours été là pour nous tous.
C'est Édouard Fritsch aussi qui se souvient d'un ami, un homme fidèle, digne, solide et profondément humain. Il écrit qu'il n'était pas seulement un grand avocat, mais aussi une présence rassurante dans les moments de doute. Une intelligence acérée et une parole juste. Édouard Fritsch parle d'un homme d'exception. Bruno Sandras dit que Maître Quinquis aura marqué l'histoire politique et judiciaire de notre pays. Il se souvient de ses plaidoiries, sa vive intelligence et son instinct infaillible de la défense. Dans sa carrière, François Quinquis s'était aussi illustré dans la défense de Maître Lejeune, l'histoire d'un notaire et d'un gros héritage, dans la défense de la famille de Dague Drolet, tuée par Christian Brando, et dans celle de la compagnie aérienne dans l'affaire du crash d'Air Moréa ou encore de Thierry Barbion.
Et on reste dans le domaine de la justice. Une affaire a fait beaucoup de bruit ces dernières heures, c'est celle de cette agression filmée.
Oui, on y voit un homme au sol tentant de se protéger avec ses mains et un autre lui assénant des coups de pied et filmant le tout avec son portable. La scène a eu lieu à Papeete lundi et les images ont été partagées des centaines de fois sur les réseaux sociaux. L'agresseur, qui est alors aux côtés d'une femme qui reproche à l'homme au sol son comportement à son égard, a été interpellé, comme l'avait annoncé hier TNTV. Ce matin, le parquet explique que la garde à vue a été prolongé et que vu le retentissement de l'affaire, l'homme de 26 ans, jusqu'à présent inconnu de la justice, pourrait être déféré et jugé dès ce jeudi. Rien n'est acté, mais deux infractions pourraient lui être reprochées. Les violences volontaires, aggravées en l'occurrence par la proximité d'un établissement scolaire et le fait d'avoir filmé l'agression, qui constitue un délit en soi, c'est ce que précise la procureure Solène Bellaouar.
Oui, ça constitue alors ce qu'on appelle parfois le happy slapping, est désormais puni par la loi de différentes manières. Alors si c'est quelqu'un d'autre qui filme, il peut se voir reprocher en fait la même infraction, comme s'il était complice en fait. Il peut être puni des mêmes peine que la personne qui commet les violences. Et puis quand on filme soi-même des violences qu'on est en train de commettre, on n'est pas considéré comme complice, mais c'est aussi une infraction en soi.
Voilà la procureure de la République qui précise que la victime, dont la santé était déjà fragile, a été hospitalisée au Taonnet après l'agression. Il en est sorti hier soir. La magistrate note surtout que beaucoup d'internautes se sont lancés dans une sorte de chasse à l'homme après la diffusion de ces images. Elle préfère mettre en garde. Écoutez.
La chasse à l'homme, pour reprendre votre expression, elle est autorisée en aucune manière. Dans ce type de situation, si des personnes ont des informations sur des infractions qui ont été commises ou sur des infractions en cours, il faut évidemment se tourner vers les services de police et de gendarmerie et ne pas se mettre en situation soi-même de commettre d'autres infractions, parce que c'est à ça que ça peut conduire. On attise la haine, on utilise les réseaux sociaux pour diffuser des images de personnes qui ont aussi une famille, et on ne peut pas se faire justice soi-même.
Voilà, ne pas se faire justice soi-même, c'est donc ce que martèle Solène Bellawar, qui a aussi au passage apporté des précisions sur le drame routier qui avait eu lieu à Moréa le 10 mai dernier. Une voiture s'était déportée sur la voie de droite et avait percuté de face un conducteur de deux roues qui était mort sur le coup. Eh bien, la conductrice de cette voiture a été entendue après sa sortie de l'hôpital et les résultats d'analyse sont tombés. Elle était positive à la méthamphétamine. Âgée de 39 ans, elle sera jugée le 22 septembre pour homicide involontaire avec deux circonstances aggravantes, l'AIS, mais aussi la conduite sans permis.
On parle aussi de la grève dans le commerce qui continue.
Après Socimat, lundi, c'est au tour de Champion Paofei de se mettre en grève. Même revendication, la lutte contre les nouvelles règles sur les jours de carence et la demande d'une revalorisation des salaires. Inano, délégué du personnel du supermarché, est sur le piquet de grève.
Aujourd'hui, on est à peu près à 60% du personnel qui sont dehors. J'aurais voulu qu'il y ait plus. Et surtout, bloquer, ce n'est pas nos intentions. Même faire la grève, ce n'est pas non plus dans nos intentions de le faire. Après un moment, il faut taper sur la table et dire ça suffit.
L'intersyndicale sans Atia Imoa continue donc sa stratégie d'action ciblée établissement par établissement. Une mobilisation pour l'instant assez discrète pour laisser le temps de la discussion, mais aussi le temps aux salariés de se rendre compte de l'importance d'une mesure comme les jours de carence, explique le secrétaire général de Oeto Erima. On écoute Atonia Teri Nohorei.
Que les salariés n'ont pas encore compris l'importance de cette grève par rapport au délai carence. C'est-à-dire un salarié qui est en arrêt de deux fois, le troisième arrêt, on te retire à peu près 36 000. Pour un salaire smicard, c'est énorme. Et là, ça ne s'arrête pas là. Plus son compte est malade, ben plus son compte est retiré.
Voilà, les centrales sont toujours en attente de la réponse de la Fédération Générale du Commerce. Un courrier devrait arriver aujourd'hui. Les syndicats disent que certains points du préavis auraient déjà été acceptés de manière officieuse, mais à ce stade, rien n'a encore été signé. Et d'autres anciennes pourraient se mettre en grève. Atonia Terino Horein nous en dit plus.
Aujourd'hui, c'est Hyperbilco, Champion Paofei, Champion Montréal et Carrefour Arouet. Puis on attend la réponse de la FGC et CPME concernant le préavis. On s'est réunis la semaine dernière. Le seul point d'acceptation, c'est l'ancienneté, de déplafonner à 30 ans. Donc, ce n'est pas encore écrit. Pour le moment, il n'y a rien. Les autres points, c'est l'augmentation de salaire. Ils ont demandé de décaler au mois d'octobre, parce que c'est là. Tous les ans, il y a une augmentation de salaire.
Chez Socimat, des négociations sont toujours en cours avec la direction pour tenter de conclure un accord.
L'actualité ce midi, c'est aussi cette nouvelle médiathèque annoncée par le ministère de la Culture.
Oui, vous le savez, le gouvernement Broverson a abandonné le projet du centre culturel à Paofei. Jordi Chan a un autre plan pour valoriser le foncier sous-exploité entre le centre-ville et Paofei. Et à la place du TNAD, on parle désormais d'un centre commercial du genre du Vaïma. Mais il y aura bien du déménagement du côté de la culture. Le ministre de la Culture, Roni Teripaya, a parler très brièvement de ce nouveau projet en séance hier.
Alors, ce que le gouvernement propose, en tout cas le ministère de la Culture, est un projet de décentralisation. La médiathèque qui était prévue dans le centre culturel va se faire à l'ancien site du Veyam. Également, sur le même lieu, il y aura un restaurant solidaire dirigé par une association qui va employer des personnes porteuses de handicap. Ça, c'est le projet. Ensuite, la médiathèque va être déplacée à Veyam pour permettre aux salles qui vont être libérées à TFTN d'être transformées en salles de spectacle, parce qu'on manque de salles de spectacle. Ça nous coûterait beaucoup moins cher. Voilà le projet.
Voilà, la médiathèque de la Maison de la Culture à Vaïami et à la place de la médiathèque à la Maison de la Culture, une salle de spectacle. On avait déjà entendu parler de cette troisième salle dont la capacité serait située entre le Grand Théâtre et le Petit Théâtre.
La route a fait deux nouvelles victimes hier en début de soirée à Papeete.
Le conducteur d'un scooter et son passager ont subi un choc violent au niveau du magasin Easy Market de l'avenue Prince Inoy. Les secours n'ont pas pu les réanimer. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La procureure de la République a confirmé ce matin qu'aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident. Des témoins ont évoqué une dispute entre les deux garçons. Solène Bellawar précise aussi qu'ils avaient un casque bol et appelle les conducteurs de deux roues à choisir le casque intégral. Âgés d'une vingtaine d'années seulement, ils sont les 25e et 26e victimes de la route cette année. Et puis les conducteurs Côte-Ouest ont souffert aussi hier avec des bouchons monstres. Un accident au PK17 a bloqué la route pendant plusieurs heures.
Et on termine avec du sport et cette annonce d'un nouveau parcours pour l'Équidène.
Deuxième édition de ce marathon qui se court en équipe, ce sera donc le 4 octobre prochain et les organisateurs ont annoncé un nouveau parcours. Il y aura toujours le front de mer mais on passera aussi par le parc Paofei. Il y aura aussi un half Équidène, le semi-marathon toujours en équipe. Et une autre nouveauté, un mini équidène 6 km à courir en équipe de 4, réservé pour les plus jeunes coureurs. Et vous pouvez déjà vous inscrire en allant sur la page Facebook de l'équidène Tahiti. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. Maintenant, c'est la météo sur Radio.